Détente comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan.
Ils sont 40, 40 entrepreneurs, 40 champions de la tech française. Comment sont-ils arrivés là? À quels enjeux font-ils face? Quels sont les ressorts qui les ont forgés? Je suis Thomas Benzazan, cofondateur du Brain Studio Feuille Blanche, et avec mon compère Olivier Mathieu, cofondateur de Price Minister, DG du Fonds 2050, président de The Camp et vice-président de France Digital, nous vous plongeons dans l'univers de ces entrepreneurs d'exception et les coulisses du Next 40. Ils répondront à nos questions, à celles d'invités surprises, tout comme à nos partenaires que sont La Tribune, Madinès, France Digital, La French Tech et Neuflize OBC. Vous en voulez plus? Abonnez-vous sur vos plateformes de podcast préférées. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à nous donner les fameuses 5 étoiles pour ensemble exploser les algorithmes et faire rayonner les entrepreneurs. On élargit aujourd'hui le Next 40 pour aller à la rencontre de tous les grands acteurs de la tech française. Aujourd'hui, assis sur la chaise des studios Feuille Blanche, je vous propose de voyager dans le monde du travel avec Timothée Deroux. Bonjour Timothée.
Bonjour.
Pour lancer cet épisode, je voudrais citer Aurel San. Alors, en le citant, c'est peut-être moins bien, donc je vais me tenter à la chanson. Au fond, je crois que la terre est ronde pour une seule bonne raison. Après avoir fait le tour du monde, nous tout ce qu'on veut, c'est être à la maison. Tu comprendras pourquoi je suis jamais devenu chanteur, mais au final,
c'est pas mal.
C'est gentil. Au final, autour de chez soi, il y a un monde trop souvent oublié. Est-ce que ça résonne pour le CEO d'Alentour et de Manawa?
Oui, parce que Manawa, c'est une plateforme qu'on peut considérer comme une plateforme du tourisme de proximité, donc vraiment autour de soi. Manawa, en fait, c'est une plateforme, une place de marché en ligne de réservation d'activités de loisirs de plein air, donc la location d'un canoë kayak, une randonnée en VTT, un cours de surf, un vol en parapente.
8000 activités à travers l'Europe et un peu au-delà d'ailleurs.
Voilà, à travers l'Europe, un peu au-delà, dans les Outre-mer, mais principalement en France quand même. Enfin, disons que la majorité des activités est en France. Et en fait, à travers Manawa, à travers ces activités qui sont donc réservables en ligne, on fait 3 choses. On propose à ces petits prestataires d'activités de proximité de se digitaliser, d'être présents sur le web, d'être réservables en ligne, ce qui est compliqué pour eux. Ce sont des toutes petites sociétés. C'est une offre qui est très fragmentée.
Avant, ils faisaient comment? Ils allaient voir les hébergements d'à côté pour qu'eux-mêmes proposent à leur clientèle de passer par eux.
Entre autres, ils ont en général une page Facebook avec un numéro de téléphone. Ils sont présents sur les grands moteurs de recherche et notamment Google Maps, avec leur numéro de téléphone, donc on peut toujours les appeler, mais ils n'étaient pas réservables en ligne et ils le sont pas encore tout à fait, puisqu'il y a seulement 5% des réservations de ces activités qui passent par le numérique, ce qui est très faible. Quand on réserve une chambre d'hôtel, enfin l'hébergement, c'est 80% de réservations en ligne, donc les activités 5%. C'est vraiment le
donc
dernier segment
énorme.
C'est une opportunité énorme. Alors, je reviens sur la proximité. Notre objectif donc c'est de digitaliser ces petits prestataires, de les aider et de répondre à une demande, ça c'est une banalité que je vais dire, mais qui est de plus en plus digitale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la clientèle, et notamment la clientèle internationale et la clientèle qui rajeunit et qui est de plus en plus Internet native, souhaite réserver en ligne ses activités. Et donc, on répond doublement aux prestataires d'activités et au grand public qui souhaite réserver en ligne, et on met en avant un tourisme de proximité, pour revenir à la chanson que tu as très bien chantée d'Aurel San.
C'est trop gentil.
On est dans un tourisme de proximité, ne serait-ce que parce que sur Manawa, par exemple, la plupart de nos clients sont français. On a bien sûr une clientèle internationale, mais beaucoup de nos clients sont français, et ces clients français voyagent en France. C'est d'ailleurs la traduction du marché du tourisme français. C'est un marché très domestique. On a 88% des Français qui, quand ils partent en vacances, partent en France. Donc, effectivement, on est quelquefois autour de sa maison pour réserver une activité de plein air sur Manawa.
On aime bien l'ambition hein, sur 40 nuances de Next. Vous n'en manquez pas. Devenir le leader mondial d'origine française de la réservation d'activités en plein air.
Oui, parce que effectivement, donc Je le disais, le voyage, c'est très digitalisé depuis 20 ans. Ça fait 20 ans qu'on peut réserver un hôtel en ligne, ça fait 20 ans qu'on peut réserver un billet d'avion. C'est d'ailleurs un des tout premiers secteurs, avec le secteur culturel, qui s'est digitalisé. Mais il reste ce segment qui ne l'est pas. Et aujourd'hui, sur les activités de plein air, finalement, on a peu de concurrents. Pourquoi ? Parce que les grandes plateformes internationales s'intéressent aux activités, bien sûr. Elles sont pas folles, elles voient bien que c'est le secteur qui est pas encore digitalisé, qu'il faut conquérir. Donc les grandes plateformes internationales, les marques très connues, je vais en citer une, Airbnb ou une autre, Booking, qui sont des plateformes américaines, s'intéressent à ce secteur. Mais elles s'intéressent surtout aux grandes activités, aux gros porteurs, le billet pour la Tour Eiffel, le Château de Versailles, le Musée du Vatican, donc les grandes activités culturelles, Disneyland. Et ça, effectivement, nous, Manawa, on a peu de valeur ajoutée dessus. Proposer un billet sur la Tour Eiffel, ça fait très longtemps qu'on peut le réserver sur le web. En revanche, les petites activités de plein air, qui représentent un marché énorme, hein, rien qu'en France, c'est 10 milliards d'euros de volume d'affaires.
Okay.
On a une carte à jouer. C'est la carte qu'on joue. C'est un marché extrêmement fragmenté qui n'est pas aujourd'hui adressé par ces grandes plateformes. On n'a pas beaucoup de concurrence, en fait. On progresse très vite. On a trouvé un moyen de les digitaliser rapidement avec une équipe commerciale qui est très efficace.
C'était un peu l'objet de ma question derrière. Ça n'a pas été fait, notamment par les grands acteurs que tu évoquais tout à l'heure. Parce qu'on imagine la complexité d'aller chercher cette multitude. Je ne sais pas combien il y a de prestataires.
150 000 à peu près.
Okay.
150 000 petites boîtes.
Ouais, ouais, c'est ça.
Qu'il faut aller chercher, qui sont pas forcément dans des destinations très connues. C'est effectivement assez complexe et il faut un système en fait qui repose sur un triptyque, trois piliers en fait, une équipe commerciale extrêmement efficace. Ça se passe beaucoup au téléphone, mais ça se passe aussi sur le terrain. Il faut une équipe d'intégration et de création de contenu très efficace aussi, parce que ces petits prestataires, ils sont très bons pour donner précisément, pour accompagner un vol en parapente par exemple, mais ils ne savent pas forcément décrire le contenu
rédiger,
de leur activité,
rédiger, la proposition
voilà,
de valeur.
Exactement. Et ça, c'est hyper important pour les activités. Et sur Manawa, je pense que c'est quelque chose qu'on réussit très bien. Il y a des choses qu'on réussit moins, mais ça, on le réussit très bien, le contenu. C'est pour ça qu'on a une très bonne conversion sur le site. C'est pour ça que quand on a du trafic, on a une bonne conversion vers la réservation. Et puis, il y a un troisième pilier qui est le support client. Ça, c'est très, très important aussi parce que...
Le support client de quel côté ? L'offre ou pour la demande ?
Pour la demande. Pour la demande parce que, en fait... Notre principal concurrent aujourd'hui, c'est le téléphone, finalement. Tu vas téléphoner pour prendre un cours de surf à Biarritz, parce que tu as vu un numéro de téléphone qui s'affichait sur Google Maps. Et je dirais que 3 fois sur 4, tu vas avoir personne au bout du fil, parce que le prof de surf, il est précisément sur un surf en train de donner un cours. Et donc, Manawa va répondre à ta demande, parce que tu vas pouvoir réserver immédiatement ton cours de surf. Et tu vas en plus aider le prestataire parce que lui, il va pouvoir remplir son carnet de commandes qu'il n'aurait pas rempli s'il avait juste eu un téléphone, précisément parce qu'il répondait pas au téléphone. Et donc, on a un support client qui répond aux questions des clients parce que la réservation d'activités, notamment d'activités de plein air, suscite pas mal de questions.
Oui, ben est-ce que mon fils qui fait que 1m12 peut vraiment monter là, etc., etc. Enfin, j'imagine.
C'est exactement ça.
Mais du coup, ça veut dire que demain, parce que tu peux pas empêcher les gens d'appeler quand ils l'ont trouvé sur un Google Maps, par exemple. On peut imaginer une redirection de téléphone vers une centrale Manawa.
C'est ce qui se passe, en fait.
Ok, c'est ce que vous faites déjà.
Ouais, c'est ce qui se passe, tout à fait. On a une redirection de téléphone et puis une redirection vers notre plateforme, vers notre site. Google est assez créatif pour mettre en place des partenariats avec des plateformes comme les nôtres pour qu'on en bénéficie. C'est un peu le bien et le mal, Google.
Ouais.
Hein.
Ça
nous aide énormément.
Fois,
et voilà, exactement.
Le modèle, j'imagine qu'il y a un fees sur chaque résa, mais il y a peut-être un abonnement aussi.
Alors, il n'y a pas d'abonnement. C'est un modèle très simple à la commission. On prend une commission à chaque réservation. une commission qui est suffisamment importante pour nous permettre de faire du marketing, de recruter des équipes commerciales, de recruter des équipes services clients et de les payer,
ouais.
mais qui est aussi plutôt mieux-disante que celle qu'on peut trouver chez les grandes plateformes internationales sur l'hébergement ou sur d'autres segments de la filière touristique.
Ça veut dire que vous prenez le risque et en charge le coût de créer l'espace pour cette activité, d'aller initier les premiers posts, le référencement de chacun.
Oui, absolument. C'est totalement gratuit pour un prestataire de se connecter à Manawa et d'avoir son contenu présent sur Manawa. Mais sur un modèle de place de marché comme celui de Manawa, mais qui est pas nouveau, hein, c'est ce qu'a fait Booking dans l'hôtellerie il y a 20 ans, ou Expedia, c'est un modèle où finalement l'offre crée la demande.
On a souvent vu des modèles où tu payes quand même une entrée au départ, et ensuite en plus t'as des fees. Là, ça a permis d'adresser rapidement le marché.
Oui, là effectivement, on a notre modèle nous permet effectivement de recruter plus rapidement de nombreuses activités. Je crois qu'aujourd'hui, je peux le dire sans rougir, parce que je suis quand même assez fier de ça. Manawa est le leader de la réservation des activités de plein air en France et en Europe.
Déjà.
Oui, déjà.
Et c'est que le début.
Et ça n'est que le début. Et les signaux sont plutôt bons parce que on a une très bonne croissance.
23% de croissance, je crois.
Alors, sur cet été, on a eu 23% de croissance, ce qui n'est pas beaucoup, 23% de croissance, mais on a eu un été dans le monde des activités de la restauration qui a été compliqué à cause de l'inflation, enfin à cause de la conjoncture. Donc 23%, c'est excellent par rapport à un marché qui était plutôt stable cet été, mais sur 2022, on a eu une croissance de 60%. Et là, les signaux pour cet hiver sont excellents. On a des destinations où on est en train de doubler le nombre de réservations. Donc, on est très content et très confiant sur l'avenir.
Il y a deux grandes saisons, l'hiver, l'été. Il se passe quoi sur les deux autres, l'automne et le printemps? On arrive quand même à générer...
Oui, alors c'est un grand classique du voyage et du tourisme, ça. Hein. Il y a vraiment une énorme saison, c'est l'été. Quand je travaillais... chez Expedia, j'ai travaillé 10 ans chez Expedia, l'été, les deux mois d'été représentent 60% du business de l'année. Donc, et ça, c'est pas...
C'est très le cas aussi aujourd'hui sur le plein air.
C'est le cas aussi sur le plein air. L'hiver, c'est assez long. L'hiver, ça commence en fait en novembre, ça se termine en mars. Et puis après, on a immédiatement les activités de printemps qui arrivent. Et puis on est quand même présent sur plusieurs destinations, à la fois dans le Grand Nord, en Scandinavie, où on est très présent d'ailleurs, en Norvège notamment, et dans le Sud, en Espagne, en Italie, au Portugal, en Grèce.
Dans les îles. Ouais.
Les îles. La Grèce, par exemple, c'est marrant parce que c'est un marché sur les activités qui est infini. Il y a une infinité d'îles, comme tu le sais, en Grèce, et il y a une infinité de prestataires d'activités sur chaque île. Et on est très présent en Grèce parce que on pense qu'il y a un potentiel énorme là-bas.
Je te le confirme, j'ai bientôt mon anniversaire et je sais que ma compagne a écarté des destinations faute de trouver les bons prestats pour être sûr qu'on puisse faire quelque chose. Donc ça, c'est un vrai sujet aussi de comment on alimente, en dehors presque de la saison estivale, ce marché-là.
Oui, tout à fait. C'est vrai que ce qu'on appelle les ailes de saison dans le tourisme, c'est important. Mais je dirais que Manawa contribue d'une part à la promotion des ailes de saison, parce que avec le tourisme de proximité, finalement, on peut, pour le week-end ou passer quelques jours dans une destination proche de chez soi et faire une activité. Et puis, on contribue aussi à autre chose qui est une meilleure répartition des flux touristiques. On a beaucoup parlé avant l'été de surtourisme et Manawa, avec ses activités qui sont pas forcément toutes dans les premières destinations. Je dis première destination, c'est la traduction d'un mot anglais dans le tourisme qui est primary destination. Nous, on est beaucoup dans des destinations secondaires aussi, et donc on contribue probablement un tourisme plus responsable en répartissant mieux les flux.
Bah, l'idée, c'est de démontrer qu'on peut passer du bon temps, en fait, un peu partout, notamment en France.
Oui, absolument. Et on est présent sur tout le territoire. C'était d'ailleurs un des enjeux quand on a lancé ce projet, qui ne s'appelait pas Manawa au départ, qui s'appelait Alentour, et qui était un enjeu de dynamisation des écosystèmes touristiques dans les territoires. Ça, c'est un mot très... Enfin, c'est un phrasé très académique.
Non, mais en fait, alors, du coup, je voulais évidemment en parler, parce que Alentour, dont tu parles, a racheté, il y a... un peu plus d'un an, Manawa. Et donc, je reviens sur les origines que tu évoquais. Un sujet français, au départ, avec le plan tourisme, un moment où le secteur était exsangue, c'est le mot que je cherchais.
Oui, oui, parce que, alors, en fait, en 2020, le Covid a été vraiment un cataclysme pour le tourisme, le voyage dans le monde entier. Mais c'est vraiment un peu de le dire. Moi, je travaillais pour, à ce moment-là, une plateforme américaine qui s'appelle Expedia. Et il se trouve que j'étais en plus le représentant de ces grandes plateformes auprès des pouvoirs publics, parce qu'il y a toujours des sujets de régulation. Donc je faisais partie d'une organisation qui s'appelait à l'époque le Comité interministériel du tourisme. J'étais toujours intimidé quand j'allais aux réunions, parce qu'il y avait 12 ministres, donc c'était quand même assez impressionnant, mais c'était assez utile. Et tout d'un coup, le Covid arrive, le confinement, et tout s'arrête. Pas uniquement dans le tourisme, mais enfin le tourisme a quand même été particulièrement touché. Tout s'arrête, il y a un comité de filière tourisme qui est créé, et moi je vais à ces réunions avec tous les grands acteurs du tourisme, parce que je représentais donc le numérique finalement dans ce comité. Et au bout d'un moment, au bout de plusieurs réunions, il a été décidé, pensé, imaginé par le gouvernement, hein, c'est initié par le gouvernement, de mettre en place une plateforme numérique du tourisme française.
C'était qui à l'époque le ministre du tourisme ?
Jean-Baptiste Lemoyne.
Ok.
Et cette plateforme numérique ayant pour but de digitaliser donc le seul segment du tourisme qui n'est pas digitalisé, qui sont les activités de loisirs. Bon. Pourquoi une plateforme française ? Parce que le plan tourisme qui a été mis en place au moment du Covid, plan de relance tourisme, en fait, il visait à faire rayonner la France et à maintenir la France à sa place de première destination mondiale. La France est la première destination touristique mondiale, ce qui est normal, on a le plus beau pays du monde.
Mais c'est pas celle qui génère le plus de chiffres.
C'est pas celle qui génère le plus de recettes. Ouais. Donc ça, il y a aussi un sujet de recettes. Absolument.
Ouais.
Mais c'est peut-être aussi pour ça que beaucoup de gens visitent la France. C'est parce que c'est pas un pays où t'es agressé systématiquement pour dépenser de l'argent. Ça, c'est un autre sujet. Mais première destination mondiale. Et donc, ce qu'on voit aussi, c'est que le travel, c'est un secteur qui s'est numérisé depuis très longtemps. Ça, je le disais déjà il y a quelques minutes. Mais il n'y a que des plateformes internationales. Enfin, les grandes plateformes sont des plateformes internationales, et notamment américaines. Et il y a même des plateformes françaises qui se sont fait racheter par des plateformes américaines. Je pense à La Fourchette, qui était un très beau projet français.
Devenu The Fork, qui a été racheté par TripAdvisor.
Donc, si tu réserves un restaurant, si tu réserves une location de vacances, une location courte durée, un hôtel, en fait, tu vas aller sur une plateforme américaine. Ça pose quelques problèmes. Ce ne sont pas des problèmes gigantesques, mais enfin, ça pose des problèmes de concurrence, ça pose des problèmes de loyauté, ça pose des problèmes fiscaux.
Oui.
Et donc, le gouvernement s'est dit, créons une plateforme française. Bon, on ne va pas la créer sur l'hébergement, ça existe déjà. Concurrencer Airbnb, Booking ou Expedia, c'est un peu compliqué. Donc, on va le faire sur les activités. Et donc, c'est à ce moment-là que moi, j'ai pris ce projet. J'ai été recruté, en fait, par le principal financeur de ce projet, qui est la Caisse des dépôts. C'est quand même une société privée, mais c'est financé par son principal actionnaire, qui est la Caisse des dépôts, donc un actionnaire stable, puissant, intelligent, qui travaille beaucoup sur des projets d'intérêt généraux. Et moi, je suis arrivé pour monter, en fait, from scratch, cette start-up. Donc, j'ai eu la chance, en fait, de monter une boîte qui avait déjà été financé finalement. Donc, je suis pas du tout aussi courageux que les entrepreneurs que tu reçois d'habitude. Moi, je suis arrivé, j'avais quand même des financements. Je l'ai quand même monté from scratch. Et on a.
Pardon, je suis curieux, je te laisserai poursuivre, mais Comment on est recruté comme ça?
C'est un recrutement assez classique, c'est-à-dire que moi je faisais partie de ce comité, ça faisait 10 ans que je travaillais pour une plateforme américaine, je connaissais très bien la travel tech.
Et pour concurrencer les Américains, c'est pas mal d'avoir quelqu'un qui comprend.
J'étais un peu du côté obscur, ouais, de la force, et je suis passé du bon côté de la force. Non, mais c'est pas le côté obscur de travailler pour une plateforme américaine.
Bien
j'ai
sûr,
adoré
ouais.
mon expérience chez Expedia, j'ai été directeur général d'Abritel, qui était une boîte française aussi, qui a été rachetée par une boîte américaine et qui est très puissant en France. Et donc, voilà, je connaissais les membres du comité, et puis après, j'ai eu un recrutement classique. Je suis passé par les 12 entretiens, voilà. Et donc, je suis arrivé avec ce challenge de monter cette boîte, au départ sur un modèle B2B2C, qui s'appelle Alentour, ce modèle, cette société, modèle B2B2C, où on digitalise un catalogue d'activités où on le propose à des distributeurs.
Des hôtels,
des offices du tourisme, des comités régionaux du tourisme et même des plateformes numériques. Aujourd'hui.
Pardon, je te coupe, c'est plus facile d'aller chercher ces acteurs-là quand on est porté sur un projet gouvernemental. Je veux dire, tu as un appui peut-être aussi au départ du ministre ou de ses équipes sur le terrain.
C'est plus facile parce que, je pense que c'est plus facile, parce que on a la caution du projet d'intérêt général. Même si on est une boîte privée qui doit quand même être rentable, pour se financer et se développer, on a la caution du projet d'intérêt général. Et donc,
de la pérennité.
De la pérennité, de l'utilité, et c'est vrai que très rapidement, on a pris à peu près tous les distributeurs qui pouvaient être dans nos cibles. On a travaillé avec l'agence Savoie-Mont-Blanc, avec le comité régional du tourisme de Côte d'Azur, avec l'office du tourisme de Paris, avec la plupart des hébergeurs en France, Pierre et Vacances, Bel Ambra, la plupart des chaînes hôtelières. Et puis, avec des grandes plateformes aussi numériques. Aujourd'hui, si tu réserves sur VP une activité...
On salue Jacques-Antoine Grandjean.
Exactement.
Le premier invité de Carnion The Next qu'on a pu faire en présentiel post-Covid.
Ah, génial.
Ça faisait du bien de retrouver des vrais humains.
VP, c'est une boîte absolument extraordinaire. C'est une réussite française du numérique qui s'est construite sans les GAFA, en plus, faut le dire. Et donc, aujourd'hui, si tu réserves une activité de plein air ou une location de ski sur VP, en fait, en marque blanche, c'est sur Manawa que ça se passe, sur Manawa alentour. Voilà. Donc, on a lancé ce modèle B2B2C et on s'est dit, il faut quand même qu'on teste le B2C. Et
pourquoi?
Parce que on partait de zéro et il y a quand même un petit risque quand on monte une société de rien que ça ne marche pas. Et donc, on s'est dit, on va multiplier les chances de faire marcher cette plateforme.
Question, ces partenaires qui distribuent du coup l'offre alentour à l'époque, comment tu t'assures qu'à chaque client, voyageur qui passe chez eux, t'es la proposition qui soit faite de l'offre portée par alentour.
Mais c'est un sujet. C'est un sujet, c'est le sujet de ce qu'on appelle le reach, le trafic. C'est-à-dire que dans le B2B2C...
T'as pas la main sur tout.
Je n'ai pas la main sur le trafic. Mais évidemment, il y a énormément de trafic sur les sites d'office du tourisme, il y a énormément de trafic sur les sites d'hôtels et il y a énormément de trafic sur les plateformes type VP. VP, c'est considérable, le trafic. Donc, c'est pour ça qu'en fait, on capte une partie de ce trafic-là. Bon, ça, c'est le modèle B2B2C. Et on s'est dit, il faut qu'on lance quand même en B2C pour voir si ça marche. Et là, on a eu l'opportunité, en fait, d'acheter une plateforme qui existait déjà, qui s'appelle
Manawa.
Comment
c'est né, ça? Parce que l'opportunité, tu me disais avant qu'on démarre, c'est presque un coup de chance. Tu m'as dit, je referai pas le match après le match.
Oui.
L'histoire, c'est une rencontre.
Oui, j'ai pas pensé, je me suis pas dit, tiens, il y a Manawa, il faut que je les achète. Non, c'est pas exactement comme ça que ça s'est passé. C'est un coup de chance, c'est une rencontre sur un salon professionnel. J'ai rencontré un ami qui connaissait le fondateur de Manawa. Manawa était une plateforme qui avait été lancée juste avant le Covid, donc qui était quand même un peu exsangue, mais qui avait de très bons fondamentaux. Je suis pas je suis comme beaucoup de gens un expert des plateformes numériques, je suis pas le seul, mais bon, quand même, il y a des fondamentaux qu'on connaît.
Une solution tech.
Voilà, une bonne solution une tech, un bon taux de conversion, un beau contenu, l'exclusivité d'un contenu, un service client qui fonctionne, une équipe commerciale qui sait aller recruter, mais les chiffres étaient là, mais c'était encore tout petit. De fil en aiguille, on a acheté Manawa. Parce que on s'est dit que ce serait plus simple de partir d'une techno et d'une plateforme existante sur, en plus, une verticale d'activité qui est la moins digitalisée de toutes, qui sont les activités de plein air. C'est ce qu'on appelle dans la longue tail, la longue traîne, l'offre cachée. Donc, on a acheté Manawa. On a, bien sûr, réinjecté un peu d'argent dedans. On a réorganisé les équipes, réorganisé le marketing. On a, motivé les équipes pour que ça reparte. Et c'est reparti très rapidement et très, très fort.
Tu le sais, je crois, on a un autre podcast qu'on porte chez Feuille Blanche dédié à l'exit des entrepreneurs qui se racontent en musique, qui s'appelle Cash Out. On se rend compte, même si on le savait un peu déjà, que c'est pas toujours simple de rapprocher deux entreprises. Qu'est-ce qui, selon toi, fait le succès ou en tout cas le fait que la mayonnaise prenne ?
Alors, d'abord, chez Alentour, on était très peu au moment où on a acheté Manawa.
C'est plus gros.
Oui, Manawa, ouais. En fait, était une équipe plus importante ouais. que celle d'Alentour. Je pense que ce qui a fait que la mayonnaise a pris, c'est, je crois, et je le mets à mon crédit, mais aussi au crédit de Philippe Bichet, le fondateur de Manawa, c'est qu'on s'est très très bien entendu. Philippe Bichet et moi, je pense qu'on était très complémentaires. On s'est bien entendu. Il m'a expliqué quand même un secteur qui est assez... Moi, je venais de l'hébergement, de la travel tech, mais dans l'hébergement. Lui est un expert... des activités de plein air, des activités un peu sportives. Et il m'a très bien fait comprendre la différence qu'il y a entre réserver une chambre d'hôtel ou réserver une location de vacances et réserver une activité. Et puis, il y a aussi, je trouve, on a beaucoup de chance chez Manawa, et chez Alentour, on a une diversité des équipes assez incroyable. On n'a pas du tout un profil type de salarié chez Manawa. Bon, c'est une équipe jeune, c'est 30 ans d'âge moyen. Et on a des équipes qui sont assez mixées, c'est-à-dire qu'on a des gens, bien sûr, qui viennent d'écoles de commerce classiques, ce qu'on peut retrouver dans à peu près toutes les sociétés du tech, des développeurs. Bon. Mais on a aussi des salariés qui sont absolument passionnés par les activités.
Les premiers utilisateurs, finalement.
Ils sont les premiers utilisateurs, qui sont des grands sportifs, qui sont, pour certains, des jeunes champions, sont des salariés qui ont fait des études pour devenir prof de PS, par exemple. On en a beaucoup. C'est une société, Manawa, qui attire beaucoup de demandes, de stages, de premiers jobs, parce que le monde des activités de plein air est extrêmement attractif pour la jeunesse et pour les Français en particulier. C'est d'ailleurs un sujet, on est sur un marché qui se développe, hein, parce qu'il n'est pas digitalisé, parce qu'il représente il représente rien qu'en France 5 milliards d'euros de volume d'affaires, et parce qu'il y a une vraie attractivité pour les activités de plein air. Il y a plusieurs études qu'on ressort tout le temps, nous, mais qui sont réelles. Je veux dire, il y a une étude au Doxa qui a été faite il y a 2 ans, qui dit que 9 Français sur 10 veulent pratiquer une activité pendant leurs vacances, avec une majorité d'entre eux qui veut pratiquer une activité de plein air. 77% des Français en 2022 ont pratiqué une activité de plein air pendant les vacances. Il y a une vraie volonté, peut-être, de se ressourcer, de pratiquer des activités de proximité, des activités respectueuses de l'environnement. Et on est sur ce marché, et ça attire beaucoup de gens, et une diversité qui est très bénéfique à l'ambiance chez Manawa et à cette croissance.
Avoir trop de problèmes pour penser les team building ?
Non, on adore les team building. On en a fait un, le dernier, c'était en juin. On est allé, tu vois, ça, c'est un très bon exemple, dans une destination secondaire. On est allé au pied de la colline de Vézelay faire du kayak. On est allé...
Donc, rivière.
Oui, je dois dire que c'est absolument magnifique. On est allé sur une petite rivière qui s'appelle la Cure. C'est une activité qu'on vend sur Manawa, donc tu peux la réserver si tu veux, la Cure. Et on est allé d'un village à un autre, une balade de 3 ou 4 heures en canoë-kayak. Ça soude les équipes en plus, parce que bon, t'imagines, on s'éclabousse, on tombe dans l'eau, on pousse le canoë, on change les équipes. Et c'est splendide. Ouais. C'est vraiment du tourisme en France, absolument magnifique. On passe sous des ponts centenaires, on voit Vézelay au loin, on voit les vignes, c'est magnifique.
Et aujourd'hui, il y a une difficulté aussi pour le tourisme. Il faut parfois faire beaucoup de recherches pour être capable de savoir qu'il y a cette destination secondaire qui existe, qu'il y a une offre d'hébergement. C'est un vrai sujet.
Oui, oui, bah c'est un peu le sujet qu'on essaye de traiter, nous.
Parce que si tu tapes quelque chose, tu tombes toujours à peu près sur les 10 destinations qui sont toujours les mêmes à découvrir, même si tu tapes insolite, typique ou que sais-je, c'est un casse-tête.
Oui, oui, c'est en fait, on a parlé du surtourisme avant les vacances de cet été, mais c'est une réalité. On a, je crois que le chiffre, c'est 80% des vacanciers vont dans 5% des destinations. Donc, voilà, c'est même pas les 20-80, c'est les 5-80, là. Donc, c'est un sujet, et c'est bien un des sujets du lancement de Manawa, enfin, du développement de Manawa, qui est le développement d'écosystèmes touristiques dans des territoires qui, aujourd'hui, ne bénéficient pas forcément de la même visibilité que les premières destinations. Et nous, grâce aux activités, on pense qu'on leur fait bénéficier de cette visibilité.
Donc, alentour lancé 2021,
il y a deux ans, pile.
Est-ce que vous voyez déjà des écosystèmes se nourrir et se développer sur le terrain, ou c'est encore trop tôt pour voir du coup peut-être des offres d'hébergement qui s'ajoutent, ou au contraire autour d'une offre d'hébergement nouvelles activités qui se disent ça y est, on est en train de constituer quelque chose ensemble.
Alors autour d'hébergement des activités qui arrivent, oui, très clairement, et on les digitalise. Et ça, on est très content. Avoir des hébergements qui se créent autour d'activités, non pas encore.
C'est plus.
C'est un temps plus long. Ouais.
On apprend quoi de la data quand on est sur le travel et plus spécifiquement sur le plein air?
Alors, sur le travel, on apprend énormément de la data parce que le voyage, c'est quelque chose d'extrêmement impliquant, d'extrêmement. Affectif.
Personnel, bien sûr.
Personnel. On apprend beaucoup de choses. On apprend la taille des familles, on apprend l'âge des vacanciers, on apprend leurs préférences, on apprend leur date d'anniversaire, leurs anniversaires de mariage.
Si on enlève le côté individualisation de la data sur des grandes tendances, par exemple, entre une manière d'utiliser vos services quand on est un Français à Paris ou ailleurs versus quand on est peut-être nordique ou américain.
Oui, alors j'allais y venir. Il y a une différence effectivement entre un Français qui réserve un voyage en général, une activité en particulier, et une clientèle internationale. D'abord, et ça, c'est parce qu'on a la chance d'être français. C'est une chance inouïe d'habiter en France, dans ce pays qui regorge de trésors naturels et culturels, hein, au-delà des activités de plein air.
Qui regorge du Verdon.
Qui regorge du Verdon, absolument. Ou qui regorge du Tarn. Et donc, on a une fenêtre de réservation en France qui est beaucoup plus courte. Et c'est vraiment spécifique à la France, dans le travel en général. Les Français réservent beaucoup plus tard leurs vacances. Ils réservent leurs vacances à une date qui est beaucoup plus proche de la date des vacances elles-mêmes. Et sur les activités, les Français réservent quasiment à la dernière minute leurs activités. Ils les réservent en général quand ils sont dans la destination.
On est capable de l'expliquer, ce quoi c'est un mindset, de se dire « on verra bien, on profite, je veux pas m'imposer des choses » ou c'est peut-être autre chose?
Je pense qu'il y a deux choses. D'abord, on a beaucoup de vacances en France, mais c'est très bien. Et donc, on n'est pas stressé par la préparation de vacances au long cours. Et puis surtout, 88% des Français qui partent en vacances vont en France. C'est énorme. C'est pas du tout le cas des Anglais ou des Allemands. Les Allemands, ce sont des grands voyageurs, mais ils restent pas en Allemagne. Il y a des choses sympas en Allemagne, mais ils restent pas en Allemagne. Et donc, ils préparent beaucoup plus leur voyage en amont. Une chambre d'hôtel en France, la fenêtre de réservation, c'est 1 à 2 mois à l'avance. Pour un Anglais ou un Allemand, c'est 6 mois en avance. Une activité est réservée en avance par un Allemand ou un Anglais. Ça va être... Alors, la fenêtre de réservation sur les activités, elle est quand même plus courte. Hein. Ça va être 1 mois en avance.
Oui, quand même.
Pour un Français, ouais. c'est moins d'une semaine. Donc, c'est une vraie différence.
Le fait d'avoir un rêve, c'est se projeter demain. Et quand on imagine ce monde de demain, et a fortiori dans le travel, on sent déjà un certain nombre de mutations aujourd'hui en matière de voyage. Il y a un certain nombre de bouleversements dans les modes de consommation. On parle d'instagramisation du travel. On a des villes comme Venise qui ont décidé, qui ont acté qu'ils allaient limiter le flux touristique. Comment on prend ça en tant qu'entrepreneur dans le travel ?
On s'adapte, mais surtout, on trouve ça bien. Moi, je trouve ça bien. Je trouve ça bien qu'il y ait des quotas de visites dans certaines destinations. On ne peut pas promouvoir uniquement 5% des destinations dans le monde. Venise, c'est exceptionnel, hein. Faut pas se méprendre. C'est vraiment exceptionnel. On n'est jamais déçu par un voyage à Venise.
Sauf quand tu marches à la queue leu-leu dans les grandes rues et
voilà.
Que.
Mais Venise, c'est un très bon cas d'école, je trouve, parce que c'est une destination magnifique qui attire énormément de monde. Et effectivement, si tu vas à Place Saint-Marc ou sur le pont du Rialto, tu peux pas marcher tellement il y a de monde. En revanche, dès que tu sors des sentiers battus, y a personne. C'est pareil pour le voyage, c'est exactement la même chose. Il faut savoir sortir des premières destinations qui, de toute façon, vont évoluer vers la mise en place probablement de certaines limitations. Il y a des choses qui existent depuis très longtemps. Hein. Tu parles de Venise, donc on peut rester sur l'Italie, qui est un pays que je connais bien. À Milan, quand tu veux voir le tableau, la scène de Léonard de Vinci dans ce réfectoire d'un couvent, ça fait très longtemps que c'est limité, qu'il faut prendre un ticket, réserver à l'avance, qu'on doit rester un certain temps, et en même temps, tu peux profiter de cette œuvre, vivre avec elle pendant un certain quelques minutes, et c'est magnifique. Donc c'est pas très grave, mais effectivement, faut s'adapter. C'est un peu une tarte à la crème que j'arrête pas de dire, mais il faut contribuer au tourisme de proximité et à une meilleure répartition des flux, et c'est un peu ce qu'on essaye de faire avec Manawa.
Autre sujet évidemment impactant, c'est le réchauffement climatique, où on a aussi des réflexions, des prises de position, notamment sur le fait de prendre l'avion. Là aussi, c'est un sujet. C'est-à-dire que même si on parle de proximité sur un lieu, parfois il faut se rendre à ce lieu. Et donc, bref, j'imagine que c'est des réflexions aussi auxquelles vous faites face.
Oui, bien sûr, ça fait... c'est assez récent, pour le coup, cette prise de conscience. Ça paraît dingue, mais c'est assez récent. Et c'est une question qui est posée systématiquement à tous les acteurs du tourisme, de la travel tech et l'avion.
Moi, je vais renouveler mes questions.
Non, mais tu as raison, parce qu'en plus, ça évolue. Les réponses évoluent. Déjà, si on regarde, si on prend un peu de recul, l'avion, ça concerne 10% de la population mondiale. Tu le sais, mais il y a 90% de la population mondiale qui n'a jamais pris, qui ne prendra jamais l'avion. Donc, on peut se dire que c'est pas un problème insoluble parce que ça ne concerne que 10%. Bon. Pour les gens du voyage, évidemment, ça a un impact. Ça veut dire qu'il faut s'adapter à une nouvelle façon de voyager, à des nouveaux modes de transport. Et ça veut dire qu'il faut aussi faire du lobbying pour que ces nouveaux modes de transport existent, notamment le train. Le train doit se développer. Et si on regarde l'Europe, c'est encore compliqué en Europe d'aller d'une destination à une autre dans un train en ligne directe et de façon confortable. Donc, ça fait partie des évolutions et du lobbying qu'on fait. Et puis, encore une fois, je suis désolé, je me répète, mais on peut proposer un tourisme autrement, avec d'autres destinations, un tourisme de proximité. Ça fonctionne aussi très bien.
Mais d'où l'intérêt d'être typiquement là, ultra présent, en Europe d'abord, avant d'aller conquérir le monde, d'être le pilier incontournable pour l'ensemble des voyageurs européens, c'est déjà beaucoup.
Oui. Bah, nous ambitionnons avec Manawa d'être d'abord un leader européen dans la réservation d'activités et puis ensuite peut-être un leader mondial. Mais c'est aussi parce que c'est plus facile en Europe.
On prend notre boule de cristal, tu la vois, je l'ai dans les mains. Enfin, faut l'imaginer un peu. Comment tu vois le marché de Manawa à 10 ans? Où est-ce que vous positionnez?
Alors, je pense que dans 10 ans, aujourd'hui, je disais, on a 5% des réservations d'activités qui se passent en ligne. Je pense que dans 10 ans, on sera autour de 25-30%, peut-être un tiers des réservations qui seront réservées en ligne. Je vois Manawa comme le leader des activités de plein air, donc de cette longue taille des petites activités qu'il reste à digitaliser. Donc, un acteur majeur avec une marque connue, qui sera probablement Manawa, qui n'aura pas changé. Et je pense que on aura dans 10 ans probablement multiplié par 20 notre volume d'affaires, peut-être plus.
Tu l'évoquais il y a un instant, il y a des sujets de lobbying sur les modes de transport. En fait, je te propose d'arrêter de faire du lobbying et de prendre une autre casquette. Sans la voix cassée, c'est quoi ton projet?
Alors, j'en ai déjà un peu parlé, mais il y a deux projets. Il y a un projet d'éducation, bien sûr. Ça, c'est, je pense que je suis pas le premier à t'en parler, mais je pense
ça nous concerne tous.
Ça nous concerne tous. Et il y a un projet d'éducation à l'environnement, au changement climatique, à la consommation, à la responsabilisation dès le plus jeune âge sur ce sujet, en fait, ce sujet du changement climatique, du respect de l'environnement et du respect de notre planète. Et de façon très concrète, je l'ai dit hein, déjà, donc je suis désolé, je me répète, mais je pense que je pense que le président de la République française a les moyens de le faire parce qu'on est plutôt très en avance sur le train, mais je pense qu'il faut réellement agir en Europe pour développer des couloirs de train et des voyages en train, une mobilité douce en fait, sur des destinations qui en fait existaient en train il y a longtemps mais qui n'existent plus. Je pense que c'est un vrai grand projet à la fois de développement économique, d'amélioration sociale, absolument, de désenclavement et de changement des mentalités.
Tu le disais, c'est pas la première fois qu'on évoque ces sujets. Alors, le train, oui, l'éducation, non, mais je te propose de revenir sur d'autres premières fois, peut-être même des dernières fois. Timothée, premier renoncement.
Premier renoncement, en tout cas, celui qui m'a marqué, qui me vient, c'est le renoncement à une carrière d'artiste, parce que tu as commencé en chantant ce podcast. Moi aussi, j'adore chanter dans des spectacles, j'adore faire des comédies musicales, et j'aurais aimé être chanteur, j'aurais aimé...
Le micro est à toi.
Non, alors je ne vais pas chanter. Je vais te dire pourquoi j'ai renoncé, ouais. Tu vas comprendre pourquoi je ne vais pas chanter. J'ai renoncé parce que probablement j'avais un peu peur, pas la volonté d'aller plus loin dans ce monde du spectacle vivant en général, et puis j'ai renoncé aussi parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui avaient beaucoup plus de talent que moi, tu vois, donc il faut savoir aussi connaître ses limites. Mais ça a été un renoncement parce que mes parents étaient plutôt sympas là-dessus et ils n'étaient pas contre cette idée.
Après, maintenant, il y a l'autotune, donc même sans talent, on peut arriver un peu à...
C'est vrai.
à tricher. Première connerie entrepreneuriale, business.
Alors, je ne sais pas si c'est la première, parce qu'on en fait beaucoup de bêtises, de conneries, mais il y en a une qui me vient tout de suite à l'idée, c'est que donc j'ai à un moment quitté un groupe que j'adorais, qui était le groupe Expedia, j'y suis revenu après, mais je l'ai quitté pour aller dans un gros groupe qui s'appelait Thomas Cook, je me suis retrouvé en fait sur un espèce de paquebot, sur le papier, le poste était super, je devenais Chief Digital Officer de Thomas Cook, qui était une énorme boîte, hein, et une marque très connue, notamment en Angleterre, plus connue que Coca-Cola, je me rappelle, il disait ça. Je me suis retrouvé dans un paquebot un peu vieux, avec des gens super à l'intérieur, mais qu'il était en fait impossible de manœuvrer, de bouger, qui était sur un ancien modèle, un ancien monde. Et en fait, j'ai été très malheureux. Et surtout, ce qui m'a marqué, je m'en rappelle, j'ai été très malheureux dès le premier jour. Ce qui est quand même assez rare. Quand le premier jour, on est toujours dans une phase de découverte,
d'euphorie.
J'ai été malheureux dès le premier jour. Je suis rentré chez moi et je me suis dit, je n'y arriverai pas. Je ne suis pas la bonne personne pour ça. Et donc, j'ai quitté Thomas Cook au bout de 6 mois. Quand même, je suis resté 6 mois. Et ils ont pas depuis trouver la bonne personne pour faire ça. Et d'ailleurs, Thomas Cook a mis la clé sous la porte quelques années après, ce qui est tout à fait regrettable parce que c'était une très belle marque, mais c'est un peu l'histoire de Kodak. Et je me suis retrouvé, en fait, un peu comme si je m'étais retrouvé chez Kodak au moment du lancement de la photo numérique.
C'est quoi les signaux faibles où tu arrives premier jour? Parce que c'est une leçon pour nous tous entrepreneurs. On cherche toujours à recruter des talents, évidemment à les conserver. C'est quoi ces petites choses là qui font que dès le premier jour, on est capable de se désinvestir presque totalement?
Il y a eu deux ou trois choses. D'abord, on sent tout de suite la culture d'une entreprise qui est prête à bouger, prête à changer.
Ou pas.
Et là, j'ai senti qu'elle n'était pas prête. On le voit en parlant aux salariés, à tous les niveaux d'ailleurs. On le voit à la façon dont sont organisés les bureaux. On le voit à la façon dont sont organisées les réunions. On le voit dans le management. Et encore une fois, les gens étaient super. C'était des gens très intelligents, mais qui avaient conscience en fait qu'il fallait changer. En fait, il fallait passer d'un monde brick and mortar, comme on dit, à un monde numérique. Et puis, on le voit aussi parce que on se retrouve confronté à une force qui passe son temps à expliquer pourquoi il ne faut pas changer. Et c'est très, très frustrant.
Ah oui, et puis c'est même à l'antithèse de la direction du vent.
Absolument.
On continue avec les premières fois, dernière fois. Allez, on reste sur les premières. Première ego trip.
Alors, des ego trips, j'en ai eu plein parce que j'ai eu la chance de faire beaucoup de spectacles quand j'étais jeune. Je faisais partie de groupes de chant, de chorale, de spectacles. J'avais la chance de chanter juste. Et donc, j'ai eu beaucoup, beaucoup d'ego trips. Quand on fait un spectacle, qu'on chante en public, on donne aux gens, mais on reçoit énormément. Et donc, c'est un vrai ego trip que j'adore encore.
Que tu retrouves cette sensation parfois dans ton métier d'entrepreneur?
Là, par exemple, en ce moment, c'est un bel égo trip. Là, toutes les questions que tu me poses sur moi, sur ce que j'ai fait, sur mon boulot, sur la boîte que je dirige, finalement, c'est assez agréable.
C'est gentil. C'est que je me débrouille pas trop mal. Dernière nuit blanche.
Alors, c'est un peu compliqué parce que moi, je fais jamais de nuit blanche. J'ai la chance de très bien dormir. Je me couche pas spécialement tôt, mais vraiment, je m'endors instantanément. Quand je vais à une fête, il y a toujours un moment où quand même je finis par aller me coucher. Donc, c'est très, très rare que je fasse des nuits blanches. Je suis un peu, peut-être un peu coincé là-dessus.
Tu me laisses rêveur quand je dors. Allez, un dernier. Premier travestissement,
en fait...
Sur cette notion d'alignement.
Oui, alors moi, je suis pas très aligné. Je pense que j'ai une personnalité qui est pas très alignée depuis que je suis tout petit, en fait. C'est-à-dire que à l'époque où les garçons rêvent de voitures, de Formule 1, de football, moi, c'était pas du tout mon trip. J'avais plutôt un côté très féminin, en fait. J'aimais la mythologie, je rêvais de voyages en Égypte, en Grèce. J'aimais les spectacles, la musique, la littérature. J'étais pas tellement dans ce modèle qu'on projetait sur
ce que doit aimer ou pas aimer un petit garçon de ton âge.
Exactement.
Quoi.
Donc, je suis assez habitué à ne pas être dans la ligne. Après, je suis quelqu'un de tout à fait, je dirais, banal, malgré tout. Hein.
Mais du coup, je tire un peu le fil, on y va pas, tu me diras. Mais le fait... un moment de se rendre compte qu'on ne projette pas sur soi ce qu'on attend de nous, qu'on projette, Tu vois, c'est cette idée, bah, tous ces sujets de genre, ouais. On attend des petites filles qu'elles soient comme ça, ou des petits garçons qu'elles soient comme ça, et tu le vois même dans, sur le marketing des boîtes de jouets. Tu vois, c'est, ça, c'est pour les filles, ça, c'est pour les garçons. Est-ce que le fait de devoir faire fi de ça, très jeune du coup, en s'en rendant compte ou pas, ça tu me diras peut-être, ça change aussi sa manière de voir la vie, et du coup d'oser plus tard, quand c'est nécessaire, d'affirmer la différence. Et dans le monde entrepreneurial, dans le business, parfois c'est important, même souvent important, d'être capable de marquer, de préciser sa différence.
Alors oui, parce que moi, je m'en rendais pas compte, parce que j'étais entouré d'une famille et de parents qui auraient pu ne pas être d'accord. Par exemple, quand je demandais une poupée pour Noël ou un aspirateur, dans les années 80, c'est un petit garçon qui demande ça, c'était pas forcément bien accepté. Moi, j'avais des parents qui étaient très, très sympas là-dessus. Enfin, je veux dire,
ouvert,
c'était même pas une question, quoi. Donc, voilà. Donc, je m'en rendais pas compte. Et ça m'a donné, je pense, une certaine aisance dans l'adaptation et dans la spontanéité, je crois. Et donc, la spontanéité, c'est important dans le monde de l'entrepreneuriat. Il faut savoir dire ses idées, donner ses intuitions. Bien sûr, il faut s'appuyer sur des datas, mais il faut quand même être assez spontané et oser dire les choses.
En tout cas, je te confirme que nous, les plus belles interviews qu'on a pu faire, c'est évidemment quand on est dans la spontanéité de l'entrepreneur à entrepreneur pour les entrepreneurs.
Bon, j'espère que je réponds à ce brief.
Bah, c'est le cas. Jusque-là, t'as pas pris de notes, t'as rien devant toi, donc tout va bien. J'ai pas de jingle pour ça, mais je voudrais te lancer la question plafond de verre, ou autrement appelée en interne la question Pascal Lorne, qui était un de nos invités, le fondateur de GoJob. Et c'est lui qui m'a inspiré cette question, parce qu'on a beaucoup échangé autour du plafond de verre et le fait que tout le monde, en fait, qu'on le croit ou non, a un plafond de verre qui lui est propre, qui n'est pas toujours au même niveau que celui des autres. Et du coup, je m'interrogeais, et je pense que cette question est valable pour à peu près tout le monde. C'est quoi le plafond de verre que tu as dû briser, faire sauter pour en arriver là où tu es?
Je dirais que le dernier plafond de verre, ou les dernières portes que j'ai dû forcer en moi, c'est précisément quand j'ai lancé cette boîte Alentour et Manawa. Pourquoi ? Parce que moi, j'ai été salarié, en fait, pendant plus de 20 ans. Et quand la Caisse des dépôts, et notamment le patron de la Banque des Territoires, Olivier Sichel, qui était un peu le patron de cette mission plateforme à la Caisse des dépôts, est venu me recruter, j'ai compris, même si j'étais accompagné par lui, que j'allais tout seul, que j'allais me retrouver dans un bureau tout seul, sans équipe. J'avais quand même une équipe de 200 personnes avant chez Expedia, et que j'allais devoir monter from scratch quelque chose. Mais justement ça, ce qui m'attirait. Je me disais, si tu le fais pas maintenant, t'as la chance de pouvoir le faire, t'es soutenu par un actionnaire solide, stable, ils vont t'aider, ils vont te soutenir psychologiquement. Et donc, c'était un peu le grand saut. C'était totalement vertigineux pour moi. Je pense que c'est les entrepreneurs que tu reçois d'habitude, c'est des gens qui sont, pour certains, des sérieux entrepreneurs. Moi, c'était pas du tout mon cas.
Il faut bien commencer une fois.
Il faut bien commencer une fois. Et je suis assez content d'y être arrivé aujourd'hui, d'avoir aujourd'hui une boîte où il y a une cinquantaine de personnes qui génèrent plusieurs dizaines de millions de volumes d'affaires, alors qu'on est parti de zéro.
C'est pas mal. En moins de 3 ans.
Oui, tout à fait.
Ça fait rêver beaucoup de monde.
Oui, ça fait rêver, mais c'est aussi beaucoup de chance. Donc ça, je le reconnais aussi.
Bon, je sais pas si j'en ai déjà parlé à ce micro, mais il y a une superbe vidéo sur la chance de Philippe Gablier que je recommande. Elle date un peu, hein, donc la quali de la vidéo est pas dingue, mais on se rend compte que la chance, souvent, on la provoque.
On la provoque ou sait la transformer, sait la saisir. Dans le cas de l'acquisition de Manawa, par exemple, c'est vraiment de la chance, mais c'est une chance qui s'est transformée en vraie opportunité. Il a quand même fallu que je convainque mes actionnaires d'acheter une société je suis assez content d'avoir réussi à les convaincre, et aujourd'hui ils en sont ravis.
D'habitude, on a toujours des petites questions surprises de la part de proches ou de gens du monde de notre invité. Et là, en fait, il y en a une qui est arrivée pendant qu'on était en train de tourner. Donc, je ne sais pas du tout de quoi elle parle. Je te propose de la découvrir avec toi. Tu nous diras qui te la pose. Je crois que tu la connais.
Vous avez un message.
Salut Timothée. Cette question pour toi est la suivante. Tu discutes avec les plus grands acteurs du voyage mondiaux, des Airbnb, des Booking, des Expedia. Tu portes une ambition extraordinaire de construire un acteur de référence en Europe de nationalité française. Comment, avec tout cet enjeu, arrives-tu à garder toujours ton calme et ton sourire? Quel est ton secret? S'il te plaît, partage-le nous.
Je reconnais la voix de Morgan Lenné, qui est un peu le pape de la banque d'affaires dans la tech et le travel, qui travaille pour Cambon Partners, ouais. Qui est associé chez Cambon Partners, qui est un type formidable, qui m'a beaucoup aidé dans l'acquisition de Manawa. Et c'était une petite opération pour lui. Hein.
Mais il était là.
Et vraiment, je le remercie infiniment d'avoir été là. Comment je garde mon sourire? C'est peut-être aussi... Il y a une part de façade, et puis c'est ce que je disais. Moi, j'aime bien la spontanéité. Il y a une qualité qui est très très importante dans le monde professionnel et que moi, je dis toujours ça d'ailleurs de gens que je rencontre, et je peux dire ça de Morgan. Ce qui est important, en plus d'être intelligent, d'avoir une vision, d'être bosseur, ce qui est important, c'est d'être sympa.
Et c'est ça a l'air bête comme ça, mais
ouais, mais c'est très essentiel. Important. Il faut, enfin, j'aime, enfin, c'est un lieu commun de dire ça, mais j'aime travailler avec des gens qui sont sympas. C'est une des qualités les plus importantes pour moi. Et on n'ose pas dire gentil parce que ça, on a l'air un peu bête quand on dit gentil. Donc on dit bienveillant, bienveillance. Mais je pense que c'est vraiment très très important d'accepter la spontanéité.
Et une ode à la sympathie. Ce qui est marrant, c'est qu'on on dit toujours, en tout cas les investisseurs disent toujours que certes, ils regardent le projet, mais ils regardent d'abord les entrepreneurs. Et je trouve ça d'autant plus intéressant que sa question qui te pose en fait revient sur un sujet qui est très personnel te concernant, à savoir ton calme et ton sourire.
Ben, ça me fait plaisir. Si en tout cas, c'est... C'est ce que je donne aux autres, c'est assez génial.
On parle de calme, c'est important quand on est le capitaine d'un navire, et en l'occurrence d'Alentour et Manawa, de pouvoir le garder dans les tempêtes. Il n'y a pas eu de grosses tempêtes depuis le début, hein. Ça a été un voyage en kayak sur un fleuve relativement tranquille, même si j'imagine que c'est jamais simple, on le sait très bien. Malgré tout, si tu dois projeter, c'est quoi les tempêtes possibles qu'il vous faudrait potentiellement devoir affronter?
Il y a toujours plusieurs challenges dans une boîte de tech et de travel. D'abord, le voyage en général dépend beaucoup quand même de l'indice de consommation. C'est-à-dire que le premier secteur qui est touché quand il y a une crise économique, une crise mondiale, c'est le voyage. On l'a vu cette année avec l'inflation, effectivement...
Avec le Covid.
Avec le Covid, avec la crise des subprimes en 2008. C'est un des premiers secteurs qui est touché, le tourisme. Et d'ailleurs, ça a des impacts... épouvantable sur certaines populations, parce que le tourisme, c'est bien sûr les grosses boîtes du voyage, mais c'est aussi le vendeur de bouteilles d'eau sur une plage à Bali. Quand il perd son job, il meurt.
C'est tout un écosystème.
Donc ça, on n'est pas à l'abri, on n'est jamais à l'abri d'une crise internationale qui peut venir perturber les prévisions et les résultats. Ça, c'est la première chose. Ça peut être une tempête et on n'est pas à l'abri de grosses tempêtes, hein, dans le monde dans lequel nous vivons. Et puis, sinon, il y a des challenges qui sont quand même compliqués, qui sont un peu face-nord, comme on dit. Hein. Aller chercher des petits prestataires d'activités ultra fragmentés, qui sont des petites boîtes qui n'ont pas envie forcément de s'intéresser à la tech, qui n'ont pas forcément conscience de l'importance pour eux
d'être présents, de se digitaliser,
c'est vraiment un truc qui est compliqué. Il y a la gestion des recrutements, la gestion des équipes. En fait... L'enjeu de Manawa, mais c'est l'enjeu ça de beaucoup de start-up, c'est un enjeu de croissance. C'est-à-dire que il faut croître, ça c'est déjà compliqué. en relevant les challenges, les leviers de la croissance, notamment le recrutement de partenaires. Et il faut gérer cette croissance, accompagner cette croissance.
Parce que là aussi, on n'est pas à l'abri d'un marché financier qui devient compliqué et le sujet de la recherche de cash.
Bien sûr, là par exemple, on est sur un marché qui est difficile, sur le marché des levées de fonds est compliqué en ce moment. Alors moi, j'ai la chance d'avoir un actionnaire qui a de l'argent, qui me fait confiance et qui nous a financé encore pour, qui nous finance pour un certain temps. Mais c'est tout à fait probable qu'on ait à faire une levée de fonds à moyen terme.
En tout cas, a priori, face à des tempêtes qui pourraient arriver, souvent on sait des tempêtes qu'on ne voit pas venir et dont on ne peut pas toujours imaginer qu'elles arriveront un jour, tu pourras compter sur ton calme. Moi, ce que je te propose, c'est d'essayer de comprendre aussi qui est l'homme derrière l'entreprise, même si on a esquissé quand même pas mal d'éléments. Je te propose de passer à la suite.
Allez, relaxez-vous. Et maintenant, parle de vous.
C'est un peu le moment, la Timothée, où on s'allonge, on ferme les yeux, on repense à son enfance. mais si on reste sur la notion de relaxation et qu'on reste sur le focus Manawa, tu me conseilles quoi là? J'ai quelques jours à passer avec des amis. J'ai envie de me détendre. J'ai envie de me ressourcer. J'ai envie aussi d'aller peut-être chercher l'inspiration d'une manière différente.
Alors, chercher l'inspiration d'une manière différente, il y a un truc qui me vient tout de suite à l'idée chez Manawa. Hein.
Ouais.
On parlait de surtourisme. Tu as un site qui est vraiment gorgé de touristes, c'est le Mont-Saint-Michel. Mais nous, chez Manawa, on propose une expérience originale. On propose de faire du char à voile dans la baie du Mont-Saint-Michel. C'est absolument exceptionnel parce que tu es seul.
Tu as la vue.
Tu vois le Mont-Saint-Michel. Ouais. Tu vois cette baie infinie. Et le char à voile, c'est assez facile en plus. Donc, il n'y a pas besoin de prendre des cours pendant des heures. Tu es dans la nature totale parce que tu bénéficies du vent, tu avances vite. Et voilà, c'est une expérience absolument unique dans un site touristique extrêmement visité, extrêmement connu, mais que tu vois d'une manière
juste
totalement
à côté,
originale. Voilà, exactement.
Pour se sentir quand même un peu seul.
Ouais, et ça, si tu fais ça avec des amis dans la baie du Mont-Saint-Michel, tu en garderas un souvenir magnifique toute ta vie.
Et là, tu peux te faire avoir par la mer ou pas?
Il faut choisir le moment où tu le fais.
Ou alors, faut aller vite en char à voile.
Exactement. Non, faut choisir le moment où tu le fais.
Toi, comment tu trouves tes moments aussi de respiration? Parce qu'on le sait, hein, la vie d'un entrepreneur, on roule, et a fortiori, même si t'es un investisseur stable, souvent, dans ce monde-là, on nous demande de rouler à 180 dans les virages, donc faut aller vite, sans se retourner.
C'est vrai, alors...
On a besoin de respirer aussi.
On a besoin de respirer. Alors moi, j'ai un truc qui est véridique, je le fais quasiment tous les jours. Je me réveille un peu tôt le matin, parce que j'ai passé une bonne nuit, parce que je passe pas de nuit blanche. Et tous les matins, je prends ma guitare sèche et je me chante une petite chanson. Voilà, ça dure 5 minutes. Et après ça, j'ai fait travailler ma voix, j'ai entendu quelque chose de joli, parce que
T'aimes bien comment tu chantes.
J'aime bien m'entendre chanter. Et la journée commence.
Puis même de se concentrer sur la guitare, sur la recherche de la note, ça déconnecte le cerveau vis-à-vis du réel.
Exactement.
Et de l'alentour, j'allais dire.
Complètement. C'est pas mal de concentration.
Tu composes?
Non, je compose pas. Je compose pas. Je pense pas que je serais un très bon compositeur, mais j'adore interpréter.
Allez, je veux au moins un nom. Ce matin, t'as joué quoi?
J'ai un chanteur que j'adore, qui est Alain Souchon. Et donc, ce matin, j'ai chanté une chanson qui est un peu triste, qui s'appelle La Petite Bile, elle est malade. Voilà.
Parce que Madame Rêve, c'est Bachoum.
Madame Rêve, c'est Bachoum.
Parce que sans nuit blanche, c'est plus facile, mais du coup, j'avais pas la bonne rêve. Et écoute, je ne savais pas que tu jouais, que tu chantais, et j'ai quand même décidé de lancer ce format, cet épisode en musique. Sûrement pas avec ton niveau, mais du coup, Il y a des moments comme ça de rencontre.
Soyons modestes.
tu le disais, petit, t'avais cette ouverture à des sujets qu'on prédestinait pas, ou en tout cas que le monde alentour ne prédestine pas à un petit garçon. Tu rêvais de quoi? J'aime bien revenir sur les origines, sur les rêves, parce qu'un entrepreneur, c'est souvent quelqu'un qui rêve pour lui et pour les autres. Alors, est-ce qu'il y a des choses du petit garçon, de l'esprit de ce petit garçon qu'on retrouve peut-être encore aujourd'hui d'ailleurs?
Bah, il y a une chose qu'on retrouve, c'est le voyage. C'est-à-dire que moi, je rêvais vraiment de voyage. Je rêvais vraiment d'aller en Égypte, en fait. Parce que je l'ai dit, j'étais passionné de mythologie, j'étais passionné par les dieux égyptiens, la déesse Nout qui se voûte sur les hommes et qui fait la nuit. C'est la déesse de la nuit, elle avale le soleil. Et c'est la nuit, c'est la mère d'Isis, la déesse de la fertilité. Et ça me faisait complètement rêver les pyramides, les hiéroglyphes, la pierre de Rosette. Et donc, je rêvais d'aller en Égypte. Je suis depuis allé en Égypte. Et d'ailleurs, c'est un des plus beaux voyages que j'ai fait, le voyage en Égypte.
Et t'as rencontré Nout?
J'ai rencontré Nout, j'ai rencontré la nuit, mais j'ai vu Nout. C'est magnifique. Ces hiéroglyphes et finalement ces œuvres d'art égyptiennes, c'est quelque chose qui me faisait complètement triper quand j'étais petit.
Donc, tu as vite vécu ce rêve. Et c'est toujours intéressant parce que quand on atteint un objectif, quand on est entrepreneur, souvent, on prend même pas le temps de le fêter. On est déjà sur l'objectif d'après. C'était quoi ton rêve d'après?
Mon rêve d'après, c'était peut-être un rêve, là, pour le coup, un peu qui va te paraître un peu banal. Mais,
on a le droit au rêve banal.
Ouais. Mais alors, vraiment banal, mais je suis tombé amoureux très jeune de ma femme. Et
C'est quoi très jeune? Parce que là, je parlais petit garçon.
17, 18 ans.
Oui, hein, jeune.
Jeune. Et de la femme que j'ai épousée, donc. Et je crois qu'en un dîner, j'ai su que je voulais l'épouser. Et j'ai eu le culot de la demander en mariage.
À la fin du dîner?
À la fin du dîner, exactement.
Ah ouais.
Alors après, ça a été un peu long, hein. On s'est pas marié tout de suite, hein. Mais c'est finalement la femme que j'ai épousée.
Spontanée, donc.
Et voilà, tout à fait. Et je suis très heureux d'avoir épousé cette femme et d'avoir fondé une famille avec elle.
En parlant de famille, il y a toujours cette question de quel héritage on a envie de laisser. Il y a l'héritage patrimonial, c'est une chose, mais il y a l'héritage philosophique qui, je pense, peut parfois nous perdurer encore un peu plus longtemps.
Alors, je pense que ce que je laisserai à mes enfants comme héritage, et j'ai deux filles, en fait. Pareil d'ailleurs que les hommes les plus heureux sont les pères de deux filles.
Eh ben, c'est mon cas.
Ouais. Bon, bah.
A priori, je suis heureux. Voilà. En tout cas, je sais pas si je suis le plus heureux, voilà. Mais je suis.
Statistiquement, tu sais, c'est des statistiques américaines ou canadiennes sur des sujets toujours un peu étonnants. Mais il paraît que les hommes les plus heureux sont les pères de deux filles.
Après, faudrait rentrer dans la data pour valider le.
Data, exactement. ce que je leur laisserais, c'est peut-être la fantaisie. C'est peut-être l'héritage le plus important pour moi, c'est mettre de la fantaisie dans la vie. Et je crois que elles ont cette fantaisie et j'en suis ravi pour elles parce que c'est quelque chose qui rend heureux finalement, la fantaisie.
Alors de manière très fantaisie, c'est une question que je pose pas souvent, mais comme tu as l'air de prendre le temps, de réfléchir, de t'intéresser aussi pas mal à la musique, donc peut-être à d'autres arts aussi. Est-ce que tu as une reco, livre, spectacle, film, docu, business ou pas business, encore une fois, on peut sortir complètement des sentiers battus et prendre des destinations secondaires, par exemple?
Bah, mon livre préféré, c'est Belle Amie de Maupassant. Belle Amie, c'est l'histoire d'une ascension sociale, mais racontée avec beaucoup d'humour par Guy de Maupassant, et c'est un des livres, je crois, les plus féministes que je connaisse. Parce que le rôle des femmes est hyper important dans cette ascension, et c'est un livre qui se lit très facilement, un peu comme un livre à suspense où on voit l'ascension de cet homme page après page. C'est un livre magnifique. C'est un livre sur l'ambition aussi, très très beau.
C'est quoi un livre préféré? C'est un livre qu'on relit?
C'est un livre qu'on relit. Moi, je l'ai lu deux fois, bel ami.
Récemment?
La dernière fois, c'était en voyage. Je l'ai lu, en fait, en même temps que ma fille à qui je l'avais conseillé. Je voulais voir si finalement je l'avais
c'était
bien conseillé.
C'est encore d'actualité, ouais, ouais.
Voilà.
Il y a des lectures qui nous mettent des claques et la vie, parfois, nous en met aussi. Timothée, je te propose de nous partager la tienne.
Wow.
La parole est à toi.
La claque, je pense que mon premier job, ça a été une claque, parce que j'étais chez Danone. J'ai passé un peu de temps dans la grande conso, puis ensuite 10 ans dans les télécoms, et ensuite je suis entré dans la travel tech. Donc j'ai commencé chez Danone et j'étais ce qu'on appelle, je sais pas si ça s'appelle encore comme ça aujourd'hui, chef de secteur. C'est-à-dire que j'allais négocier avec les hypermarchés les ventes de produits. Et je venais d'un monde quand même assez confortable, une famille formidable, des études en école de commerce où c'était quand même assez cool, voilà. Et puis je me retrouve chef de secteur à aller voir des chefs de rayon de Leclerc, de Carrefour, de Continent à l'époque. Et je dois dire que ça a été une vraie claque parce
que... À quel niveau?
Parce que, alors d'abord, c'était un monde que je connaissais pas. C'est un monde très dur, de négociation... où il y a une certaine violence dans la négociation. C'est pas un monde a priori très sympathique. Je parlais de sympathie tout à l'heure. C'est pas un monde très fantaisiste non plus. Mais, en fait, on fait des rencontres avec des gens qu'on n'aurait pas imaginé rencontrer. Et le job, la première rencontre avec le chef de rayon du Continent de Bourges, qui était un des magasins que j'avais dans mon portefeuille, le Continent, tu vois, ça remonte à longtemps, hein, c'est groupe Promodès. Je m'en rappellerai toute ma vie parce que bah, c'est un type, ce chef de rayon qui travaillait très dur, qui avait aussi une vraie intelligence du terrain. Et ce qui est marrant, c'est que cette expérience du terrain, parce que c'est vraiment une expérience où on prend sa voiture, on va dans les hypermarchés, on rencontre les responsables, on se prend des claques, c'est un monde aussi assez viril, hein, faut le dire. Je pense que ça l'est moins aujourd'hui, hein, mais c'était un monde très, très viril. En fait, j'ai appris ce que c'était que le terrain, j'ai appris ce que c'était que la vente, et il n'y a pas, à mon avis, de meilleure expérience pour commencer que
de
l'expérience
formation,
de la vente.
Ouais.
Voilà. Donc, je suis très content d'avoir fait ça. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que je rencontre des gens dans le cadre... Quand j'ai passé mes entretiens à la Caisse des dépôts pour monter cette boîte... Je reviens là-dessus. Et les gens qui m'interrogent reviennent là-dessus. Ouais. Ça les amuse, finalement.
Il y a des expériences comme ça de la vente, même de téléprospection. En fait, le fait de se prendre des claques, de devoir repasser derrière, ne pas se décourager, finalement, c'est un gros apprentissage.
Le directeur commercial de Danone me disait « Il faut toujours se prendre 3 murs avant de faire une vente. » Bon, 3 murs, donc on se prend le mur.
Et il faut un 4e mur pour faire une maison.
Exactement.
Je te rajoute ça. C'est mon côté, c'est mon côté architecte ou maçon, je sais pas.
Magnifique.
Je te propose de presque finir avec ta carte blanche. C'est le moment où, en fait, t'as les manettes, t'as le micro, t'as l'écoute, et c'est à toi.
Carte blanche. Pour 40 nuances de Next.
J'y vais. Alors, ma carte blanche, en fait, c'est une joie et une admiration pour les grands événements sportifs qui sont organisés en France et qui vont être organisés en France.
Coupe du monde de rugby.
Coupe du monde de rugby.
JO qui arrive.
Voilà, exactement. Bon, ce sont bien sûr des moments de fraternité où tout le monde se retrouve. C'est des moments de rayonnement de la France extraordinaire. Moi, je peux pas dire que je suis fier d'être français, parce que ça veut rien dire d'être fier d'être français. Comme disait Maxime Le Forestier, on choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille, on choisit pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Donc, moi, j'ai pas choisi d'être français.
T'es là. Ouais.
Mais je trouve qu'on a une chance inouïe de vivre en France. Et quand on voit ces grands événements sportifs, ces cérémonies, la cérémonie des Jeux Olympiques qui va être absolument magnifique.
Sur la
scène,
ouais.
C'est la première cérémonie en 2000 ans de Jeux Olympiques qui ne va pas avoir lieu dans un stade, qui va avoir lieu au cœur de la ville. C'est absolument dingue. Ça va être absolument splendide. C'est un rayonnement pour la France, pour Paris, qui est fabuleux. C'est une mise en avant donc de la fraternité, des valeurs sportives qui sont magnifiques, qu'on peut associer à la France. C'est un moment aussi très droit de l'hommiste, hein, les grands événements sportifs, donc j'adore ça. Et le fait que ça ait lieu en France et que ça fasse rayonner la France, je trouve que c'est formidable aussi pour le tourisme en France, ouais. Et pour l'activité en France en général.
J'avais pas prévu d'aller là-dessus, mais c'est quand même une question que j'aurais pu te poser dans ces temps forts. Évidemment, ça va drainer un monde pas possible. Comment Manawa peut arriver à capter, alors côté alentour, je le vois bien, office du tourisme, hébergement, mais en direct, avec ce public étranger, comment on arrive à capter tous ces spectateurs de ces grands événements pour les amener en fait à peut-être passer 2 jours, 3 jours de plus ailleurs et donc participer à d'autres activités, et peut-être sportives d'ailleurs?
Bah en fait, je vais te dire, on les capte. On le voit là avec la Coupe du Monde de rugby qui a lieu en ce moment. Je sais pas quand sera diffusé cet enregistrement, mais
dans moins d'une semaine.
Voilà, donc on le voit avec la Coupe du Monde de rugby. Il y a à peu près, il y a presque 1 million de personnes qui sont venues avec la Coupe du Monde de rugby. Et en fait, on les capte. On voit très bien que nos chiffres, dans les destinations proches des villes où ont lieu les matchs, on vend beaucoup plus d'activités. Donc, on les capte précisément parce que on est présent. Alors là, je vais utiliser un mot un peu mercantile, mais on est présent dans le magasin. C'est-à-dire que quand ils sont dans une destination et qu'ils regardent sur le moteur de recherche, ben Manawa apparaît quand ils demandent quelles activités ils peuvent faire à proximité.
On peut imaginer d'organiser les Jeux Olympiques des activités de loisirs pendant toute cette période portée par Manawa.
On a des activités sur Manawa qui sont devenues des disciplines olympiques. Il y en a 2 qui sont nouvelles. Là, il y a le surf. Alors, le surf aura lieu à Tahiti et non pas sur le territoire métropolitain. Mais enfin,
on peut le déporter, on a des spots de surf même enfin un peu partout là sur les côtes. Hein.
Absolument, ouais. et on est aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'autres sites que Manawa sur lesquels tu peux réserver un cours de surf sur la côte basque par exemple. Et puis il y a une deuxième activité, c'est l'escalade. L'escalade qui devient une activité olympique et qu'on propose aussi comme activité chez Manawa.
Sans oublier le kayak, toujours olympique.
Alors le kayak, ouais. Le kayak, c'est olympique, c'est le kayak de mer qui est pas olympique, ouais. Et qui, je crois, devient une activité invitée. Je sais plus si c'est, pour tout te dire, je sais plus si c'est le kayak ou l'aviron de mer, mais ouais. C'est pas tout à fait la même chose.
Kayak de mer, de façon, ouais, je pense pas le kayak de mer parce que c'est une aventure, mais c'est peut-être plus difficile de faire un parcours ouais. Aussi intense qu'une descente de rivière, force ouais. X. Bon, bah, il y a de quoi faire.
Absolument, il y a de quoi faire et on est très heureux. Moi, je suis très heureux de travailler pour cette société et de la mettre en forme et de la développer avec une équipe qui est absolument géniale.
Tu l'as dit tout à l'heure, t'es papa de 2 filles. Ce qui est marrant, c'est que quand t'es revenu sur ta reco littéraire, c'était Belle Amie, un ouvrage peut-être féministe avant l'heure. Donc, j'imagine que t'étais ravi quand on t'a dit qu'il y avait une petite rubrique Sista. On demande à l'entrepreneur de nommer une femme entrepreneur qu'il admire. Et je vais te laisser nous annoncer de qui tu souhaitais nous parler. Cette grande entrepreneur est, roulement de tambour...
C'est Kitri Matelin-Moreau. Kitri Matelin-Moreau, oui. C'est la cofondatrice de Skello. Skello, qui est une entreprise de la tech, qui aide à la planification RH dans les entreprises. Et j'ai beaucoup d'admiration pour Kitri, que je connais, parce que je connais sa famille. C'est une famille, d'ailleurs, de 5 enfants, ultra créative. Il y a même un skipper, un navigateur assez connu, qui est son frère, William Matelin-Moreau. Sa mère est comédienne. Enfin bon, c'est une famille assez
bohème, finalement. De la fantaisie, de l'aventure.
Tout à fait.
À tous les niveaux.
Et Kitri a fondé Skello, je crois, en 2016. Sur un concept qui est pas hyper sexy, a priori. La planification, les plannings RH pour les restaurants au départ. Mais elle a eu cette intuition. Elle a pris, après sa grande école de commerce, des cours de codage. Faut y aller pour ouais. Prendre des cours de codage quand on est une jeune femme de 24 ans, qu'on a l'avenir devant soi et qu'on se dit, il y a peut-être des choses plus faciles, quoi. Bon, donc elle a pris des cours de codage et puis elle a lancé Skello. Aujourd'hui, il y a 250 personnes. C'est une boîte qui a levé, c'est pas un secret, donc je le dis, qui a levé 40 millions d'euros, qui fait partie, je crois, du FT 120. Elle fait partie des 30 personnes les plus influentes selon Forbes. Enfin bref, c'est une réussite exceptionnelle qui tient beaucoup, je crois, bien sûr, à sa capacité de travail, son intelligence, son intuition, mais aussi à son caractère, à sa créativité et au fait que c'est quelqu'un qui est extrêmement sympathique, ouvert et drôle.
Eh ben, une chose est sûre, on l'aura prochainement à notre micro, donc on aura le plaisir de faire découvrir Kitri et sa boîte, évidemment, Skello, à l'ensemble de nos auditeurs. Ce sera un échange porté, je crois. On se battra un peu avec Solène et Étienne, mais ce sera soit moi et Olivier, soit Solène. En tout cas, un immense merci à toi, Timothée. C'était un plaisir de découvrir aussi ce monde du travel qu'on croit tous connaître parce qu'on voyage, a priori, souvent tous, mais avec un angle, moi, que je découvre un peu plus spécifiquement sur le plein air notamment et sur la nécessité d'éclatement du voyage un peu partout, sur toutes les destinations. Donc, merci pleinement pour ta spontanéité et ta fantaisie, entre autres.
Merci beaucoup.
40 nuances de Next.
Le Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazon.